Voici le journal de Thomas Cluzel.
Après l'attaque au couteau à Trappes ce matin, les motivations de l'agresseur restent encore floues selon le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. L'homme qui a notamment tué sa mère et sa sœur présentait un problème psychiatrique important. Reste qu'il était aussi enregistré au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Décryptage à suivre dans ce journal avec Christine Monclat. Après le gouvernement hier, c'est au tour des partis d'opposition de faire leur rentrée politique. Aujourd'hui, nous serons en direct avec Sophie Delpont à Marseille pour le Grand Rassemblement. De la France insoumise. 18 mois après une première enquête choc, le mensuel 60 millions de consommateurs pointe à nouveau la présence de résidus potentiellement toxiques dans certaines couches pour bébés, en particulier des pesticides. Alors comment lutter contre ces produits toxiques? Nous écouterons à ce sujet Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo et spécialiste de l'environnement. Enfin aux États-Unis, même si une destitution du locataire de la Maison Blanche reste très hypothétique, Donald Trump a préféré prendre les devants aujourd'hui et lier tout simplement son destin à l'économie américaine en affirmant que les marchés s'effondreraient s'ils venaient à être destitués. Quelques heures après l'attaque au couteau de Trappes ce matin, au cours de laquelle un homme a tué sa mère et sa sœur et blessé grièvement une autre femme avant d'être abattu par les forces de l'ordre, le profil de l'assaillant donc commence à s'affiner à ce stade. La piste d'un différend familial semble privilégiée. C'est d'ailleurs le parquet de Versailles et non pas le parquet antiterroriste qui a été saisi de l'enquête. Christine Monclat, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
Âgé de 36 ans, identifié sous le nom de Kamel S, l'homme était visiblement connu pour être fragile psychologiquement, sauf qu'il était aussi fiché pour avoir fait l'apologie du terrorisme.
C'est en effet, semble-t-il, un profil assez complexe qui ne permet pas à ce stade de tirer de conclusions sur ses motivations. D'un côté, la mairie de Trappes insiste sur sa fragilité psychologique. En effet, il aurait déjà eu un contentieux avec sa famille, des problèmes de couple et de dépression. Même tonalité, vous allez l'entendre chez Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu ce matin au commissariat de Trappes.
Aujourd'hui, on a plutôt quelqu'un avec un problème psychiatrique qui apparaît important, qui était fiché au FSPRT, connu pour des faits d'apologisme du terrorisme. Et donc c'était plutôt un côté, on va dire, de déséquilibre, plutôt que quelqu'un d'engagé et quelqu'un qui pouvait, par exemple, répondre aux ordres et aux consignes d'organisations terroristes et de Daesh en particulier.
Un déséquilibré donc, même si on n'a aucune information sur la nature de sa pathologie psychiatrique. Un déséquilibré qui était quand même bien fiché au FSPRT, ce fichier créé après les attentats de 2015 et qui cible 15 000 islamistes radicaux. D'après des témoins, l'homme aurait aussi crié à l'Akbar au moment des attaques. Et certains médias affirment encore qu'il avait été récemment licencié par la RATP pour non-respect de la laïcité. Voilà de quoi alimenter rumeurs et confusions. La troisième femme blessée, elle, est dans un état grave. Les enquêteurs, eux, inspectent le téléphone de l'attaquant, son domicile, pour tenter de comprendre s'il y a ou pas un lien entre le meurtre familial, sa radicalisation islamiste et même la revendication par Daesh, intervenue très rapidement, mais sans aucune preuve d'authenticité.
Merci Christine Monclat. Le parquet de Paris a ouvert aujourd'hui une enquête préliminaire pour déterminer si les travaux d'agrandissement du siège d'Actes Sud, la maison d'édition anciennement dirigée par la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, respectent bien le code de l'urbanisme. L'ex-candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon promet de faire du scrutin européen un référendum anti-Macron. Le message pouvait difficilement être plus clair. Dans son entretien accordé à la Provence ce matin, le leader de la France insoumise annonce la couleur en même temps que débute aujourd'hui sur sa terre d'élection à Marseille, donc les universités d'été de son parti. Sophie Delpont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présente à ces universités où, semble-t-il, l'ex-candidat à la présidentielle entend jouer la carte du rassemblement.
Rassembler d'abord ses troupes à travers 150 ateliers et conférences qui ont commencé depuis ce matin, élargir ensuite son cercle, son assise politique pour apparaître comme la force centrale de l'opposition face à Emmanuel Macron. Voilà pour les deux objectifs. Pour former ses militants tout d'abord, les ateliers proposent notamment de décortiquer la communication du gouvernement. Un autre atelier donne les clés de l'auto-organisation avec également une conférence écologiste sur l'objectif zéro déchet. Après son interview à la Provence ce matin, Jean-Luc Mélenchon commencera ce soir à huis clos par une conférence interdite à la presse, intitulée « L'ère du peuple », du nom de son essai politique. C'est une volonté d'analyser entre insoumis les prolongements de l'idéologie du mouvement. Rien de sectaire, promet Emmanuel Bompard, le directeur des campagnes de la France insoumise. Une thèse politique en quelque sorte avant le grand meeting de samedi. Emmanuel Bompard qui se félicite de la venue demain de deux députés de droite qui animeront des conférences, notamment Olivier Marleix, député LR, en tant que président de la commission d'enquête sur la vente d'Alstom. Le porte-parole du PS, Boris Vallaud, aussi sera présent. Sonia Crimi, députée LREM, avait dit oui tout d'abord, avant de finalement refuser l'invitation. La députée qui est très critique sur la loi Asile et Immigration. Quant au sénateur Philippe Bas, président de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla, il aurait d'abord envisagé de venir, mais a finalement décliné l'invitation. Le contexte est nouveau cette année, veut croire Jean-Luc Mélenchon, qui espère bien faire des retraites la mère de toutes les batailles.
Merci Sophie Delpont, en direct du parc Chanot à Marseille avec Olivia Dranger pour les moyens techniques. Et pendant que la France insoumise reprend l'offensive donc à Marseille, les élus du Parti Socialiste réunis à La Rochelle essaient de reprendre vie. L'échec des élections présidentielles et législatives de 2017 a laissé le parti exsangue et à 9 mois des élections européennes, le nouveau premier secrétaire Olivier Faure, critiqué en interne, doit encore convaincre de sa capacité à relever le défi. Enfin, Europe Écologie Les Verts a également ouvert aujourd'hui ses universités d'été à Strasbourg, cette fois-ci avec, là encore, le regard tourné vers la même échéance, celle des élections européennes. 60 millions de consommateurs publient aujourd'hui une deuxième enquête sur la présence de produits toxiques dans les articles pour bébés. Et pour la deuxième année consécutive, cette enquête révèle que les couches pour bébés contiennent des pesticides comme des résidus de glyphosate. Alors ces conclusions sont contestées par les fabricants. Ce qui est sûr, c'est que la présence des pesticides dans notre vie quotidienne reste aujourd'hui inquiétante. Et c'est justement pour alerter les citoyens et appeler à l'interdiction totale des pesticides en France que le journal Charlie Hebdo a décidé de lancer son propre test sur la présence de produits toxiques sur les humains. Une quinzaine de journalistes de la rédaction ont fait analyser leurs cheveux par un laboratoire spécialisé du Luxembourg qui est parti à la recherche de 150 pesticides différents. Les résultats ne seront publiés que le 12 septembre, mais Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo et spécialiste de l'environnement, l'affirme déjà, tout est contaminé autour de nous.
Des pesticides, on va en retrouver partout. On va en retrouver dans les sols, bien sûr, et dans tout ce qui pousse sur les sols, les légumes ou les fruits. Quand vous épandez des pesticides sur un sol, il y a une partie qui vaporise, une partie de ces molécules est reprise par les nuages, par le vent et les nuages, poussés au-dessus des villes par le vent et les nuages. Des analyses de l'INRA, qui est quand même l'Institut National de Recherche Agronomique, ont montré à de très nombreuses reprises, et on peut recommencer demain matin, qu'on trouve des molécules de pesticides dans l'eau de pluie. Vous êtes à Paris ou à Rennes ou à Lyon, il pleut, et bien sur votre tête, il pleut de l'eau de pluie avec des pesticides, avec des résidus, certes, mais des résidus problématiques de pesticides dedans. Vous en trouvez dans la rosée du matin, vous en trouvez dans le cordon ombilical des nouveau-nés, vous en trouvez dans le lait maternel, vous en trouvez absolument partout où vous cherchez. Donc c'est ça le point de départ. On a décidé, finalement, constatant cette évidence que tout le monde est contaminé, si vous faites des recherches, des analyses scientifiques dans des laboratoires spécialisés, tant dans le sang que dans les cheveux des humains, on retrouve désormais partout, d'un bout à l'autre de la Terre, des pesticides dont certains sont pourtant interdits depuis 50 ans ou davantage. Ça paraît incroyable, mais c'est la vérité.
On a Fabrice Nicolino, journaliste à Charlie Hebdo. Il répondait à Maïwenn Bordron. Et puis, je précise que l'opération Nous voulons des coquelicots sera lancée le 12 septembre par le journal Charlie Hebdo, le même jour donc que la publication des résultats de la présence de pesticides présents dans les cheveux des journalistes de la rédac. Tous les citoyens seront appelés à signer en ligne cet appel. Aux États-Unis, la pression monte sur le chef de la Maison-Blanche, déstabilisé par la décision des tribunaux de s'attaquer cette semaine à deux de ses anciens collaborateurs. Le contraste est d'ailleurs saisissant s'agissant de sa manière d'appréhender les deux affaires. Lorsqu'interrogé sur Fox News, Donald Trump ne cesse de louer son ancien directeur de campagne, Paul Manafort. En revanche, il n'hésite pas à contredire son ancien avocat Michael Cohen. Enfin, s'agissant de lui-même, ou plus exactement du risque de destitution qui pèserait actuellement sur lui, là, l'ex-présentateur de show télé déclare en toute humilité « Je ne sais pas comment on peut destituer quelqu'un qui fait un super boulot ». Donald Trump.
« Je ne sais pas comment vous pouvez impeacher quelqu'un qui a fait un bon job. Je ne sais même pas comment vous pourriez destituer quelqu'un qui fait un travail formidable. Je vais vous dire, si je devais être destitué, je pense que les marchés s'écrouleraient, tout le monde serait très pauvre. Parce que sans ma manière de réfléchir à tout ça, vous verriez des résultats très mauvais. Si Hillary Clinton avait été élue au lieu de 4,1% de croissance, et entre parenthèses, chaque point ça représente 3 000 milliards de dollars et 10 millions d'emplois. Si elle avait été élue, on n'aurait pas ça. Quand je suis arrivé au pouvoir, la croissance était à seulement un point. J'ai libéré les marchés, enlevé des réglementations, diminué les impôts. J'ai fait beaucoup de choses formidables. Si Hillary était devenue présidente, avec les démocrates, on serait aujourd'hui en récession.
Alors, si le président américain Donald Trump estime que les marchés risqueraient de s'effondrer s'il était destitué, donc il ne semble pas craindre en revanche que sa guerre commerciale avec la Chine puisse avoir le moindre impact sur les groupes et les ménages américains. Ce matin, les États-Unis ont frappé de nouvelles taxes douanières, quelques 16 milliards de dollars de produits chinois, déclenchant des représailles immédiates de Pékin, et ce, alors même que des pourparlers ont repris pour, au contraire, enrayer la guerre commerciale entre les deux puissances. Lorsque le patron du groupe industriel allemand Siemens déclare « Seules les entreprises qui s'adaptent sont à même de survivre », il faut sans doute traduire que des réductions d'effectifs sont à venir. Et c'est d'ailleurs ce que rapporte la presse outre-Rhin ce jeudi, pour qui la transformation du conglomérat industriel menée tambour battant pourrait se solder au final par quelques 20 000 suppressions de postes. Nathalie Versieux nous appelle de Berlin.
C'est au cours d'une présentation à des investisseurs début août que Joe Kaeser, le patron de Siemens, aurait expliqué vouloir réaliser de nouvelles économies. De nouveau donc, le géant industriel allemand à la traîne s'apprêterait à tailler dans les effectifs avec 20 000 suppressions de postes dans les bureaux, selon le Manager Magazine. La production, elle, serait épargnée. Le 3 août, Siemens avait assuré lors d'une présentation vouloir répartir l'activité en 6 entreprises distinctes. L'objectif de Joe Kaeser serait de réaliser 2 points de plus de marge à l'horizon 2020, soit 1,7 milliard d'euros d'économies. Le groupe vise, avec son plan de restructuration, un gain d'efficacité dans les fonctions transversales telles que les services du personnel, des finances ou juridiques de plus de 20% et de 10 à 20% dans le service informatique. Chez Siemens, le mécontentement est palpable dans les rangs des salariés qui redoutent que l'entreprise ne se transforme en holding vidée de sa substance.
En Italie, le bras de fer se poursuit autour du sauvetage de près de 200 migrants par le navire des gardes-côtes italien Diciotti, même si le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a dû se résoudre hier soir à laisser débarquer 27 mineurs. En revanche, il poursuit sans relâche son combat pour empêcher le débarquement des 150 adultes encore à bord. Une fermeté qui n'entame en rien d'ailleurs la popularité de son parti, puisque la Ligue d'extrême droite est créditée d'environ 30% des intentions de vote, en hausse de plus de 10 points depuis les législatives de mars dernier. Direction Madagascar à présent, où la liste officielle des candidats pour l'élection présidentielle qui se tiendra à l'automne prochain est désormais connue. Une longue liste, pas moins de 36 candidats, parmi lesquels figurent d'anciens premiers ministres, mais aussi l'actuel président et 3 de ses prédécesseurs. C'est une correspondance de Laure Verneau.
La course à la présidence peut commencer. Erazu Narmampiane, l'actuel chef de l'État, affrontera donc Marc Ravalman, président de Madagascar de 2002 à 2009, mais aussi Andra Zoen, chef d'État pendant la transition jusque 2013. Il s'opposera aussi à Didier Ratsirak, 81 ans, qui a dirigé la Grande Île de 1975 à 1993. Une sorte de revanche pour ces poids lourds de la politique malgache, puisqu'aucun d'entre eux n'avait été autorisé à participer au dernier scrutin présidentiel en 2013. À l'époque, les adversaires de l'opposition Andra Zoen et Marc Ravalman avaient été interdits de prendre part à cette élection dans le cadre d'un accord de sortie de crise. La candidature de l'amiral Didier Ratsirak avait été, elle, invalidée par la Cour électorale spéciale. En avril, c'est bien la crainte d'une invalidation des dossiers de certains candidats qui a été à l'origine des manifestations de l'opposition. Une opposition pour qui les nouvelles lois électorales avaient pour but de disqualifier les anciens chefs d'État Ratsoen et Ravalman. Depuis la formation d'un gouvernement d'union nationale en juin, le climat politique s'est apaisé mais reste très tendu. À une exception près, jamais Madagascar n'a connu d'élections sans crise depuis son indépendance il y a 60 ans.
Depuis que le Sénat argentin les avait autorisés hier, on savait que les perquisitions dans les différentes résidences de l'ex-présidente Cristina Kirchner étaient imminentes. La police les a lancées il y a un peu moins d'une heure. La veille déjà, des dizaines de milliers d'Argentins s'étaient massés devant le Parlement pour réclamer la levée de l'immunité parlementaire de l'ancienne dirigeante de gauche citée dans un scandale colossal de Poudvin. On termine avec un mot du temps pour demain, variable et moins chaud en général, avec des orages sur la façade Est. Les températures, elles seront comprises entre 10 et 23 le matin, 17 à 35 dans l'après-midi. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Le prochain rendez-vous de la rédaction, ce sera à 22h avec Camille Magnard.